أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد طاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نقول مساجد الله صلى الله عليه وسلم أدي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كسيني في Celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc nous avions vu concernant l'interprétation du Coran. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » وأخر متشابهات qui signifie Allah t'a révélé le livre, il comporte des ayats muhkamat explicites qui sont la base du livre et d'autres mutashabihat non explicites donc qui nécessitent une interprétation de savants pour leur donner un sens conforme aux ayats explicites. Donc ainsi, il n'est pas permis d'interpréter le Coran selon son propre avis. Mais il faut demander donc aux gens de la connaissance ayant appris par transmission orale. Donc on a donné des exemples, par exemple dans le Coran et des ayats explicites comme Inna Allah ala kulli shay'in qadir, qui signifie certes Allah est sur toute chose tout puissant. Ou d'autres ayats comme وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ qui signifie il n'a aucun équivalent. Aussi, Allah dit dans le Coran لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ qui signifie rien n'est tel que lui. Donc c'est une négation dans l'absolu. Dieu ni dans l'absolu qu'il ait une ressemblance avec les créatures sous quelque rapport que ce soit. Donc Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures. Il n'est pas attribué de forme, ni de couleur, ni de quantité, ni de localisation. Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Comme a dit l'imam Ahmad et d'autres que lui, مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك qui signifie quoi que tu puisses imaginer Allah on est différent. Il y a des ayats non explicites qui nécessitent une interprétation. Donc on a cité des exemples de ayah et leur interprétation par les grands savants de l'islam, tels que l'imam al-Bukhari dans son recueil de hadith appelé Sahih al-Bukhari. Par exemple, donc la ayah dans Surat al-Qasas, Kullu shay'in halikun illa wajhah. Donc ici il est cité le terme wajh au sujet de Dieu. Donc évidemment le terme wajh ici ne peut pas avoir le sens de visage ou d'organe au sujet de Dieu. Car le visage et l'organe, c'est pour les créatures telles que les humains, les anges, les djinns, les animaux. L'imam Bukhari, il a dit « Illa wajah ay illa mulkah » Donc il a interprété ici le wajah par le mulk, la souveraineté. Donc on traduit l'interprétation. Donc c'est-à-dire, toute chose sera anéantie sauf la souveraineté de Dieu. Donc selon l'interprétation d'Al-Bukhari. Donc c'est pas comme font malheureusement certaines personnes où ils attribuent à Dieu le visage en disant ça c'est le Coran ou le Hadith. Or le Coran et le Hadith il est bien en arabe. Et si on veut traduire, on traduit nécessairement le sens correct. D'autres exemples comme وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَ بِأَيْدٍ Le cousin du prophète, Abdullah ibn Abbas, a dit بِأَيْدٍ أَيْ بِقُدْرَةٍ Donc il a dit l'yad ici dans le sens de la puissance. Donc on ne va pas dire main, mais pas comme nous. On dit yad, on garde le terme qui est dans le hadith ou le Coran. Et on voit ce qu'ont dit les savants de l'islam. C'est pas de simples traducteurs qui connaissent pas la religion. Donc yad, ici, il a dit Ibn Abbas, ay qudra, la puissance. Ou dans d'autres ayats comme Ar-Rahman ou Al-Arsh Istawa. Istawa, dans la langue arabe, a plus de 15 sens. Donc, bien sûr, on va prendre le sens qui correspond au contexte. Par exemple, en langue arabe, on dit Istawa Ta'am. Istawa, ici, on parle de la nourriture, ça veut dire est arrivé à point. On dit, il est cité dans le Coran, Falamma balagha ashuddahu wastawa. C'est-à-dire quand donc le prophète a atteint sa complète force physique, istawa ici. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, sont-ils équivalents, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc le mot istawa, on va prendre le sens qui correspond au contexte. Ici, dans l'ayah, Ar-Rahman ou Al-Arsh Istawa, donc ça parle au sujet de Dieu. Donc, parmi les sens de Istawa, il y en a qui sont dignes de Dieu, comme Qahara, comme on dit les grands savants, comme Al-Bayhaqi, le grand imam Al-Bayhaqi, dans son livre Al-Asma wa Sifat, et d'autres que lui. Il a dit Qahara dominé, ça veut dire Dieu domine le trône. Il a dit pourquoi on a cité le trône, c'est parce que c'est la plus grande des créatures dans le volume, en fait, c'est le plus grand corps. Donc, à plus forte raison, Dieu domine les créatures plus petites que le trône. Mais celui qui dit s'établir ou s'asseoir, donc ceci n'est pas digne de Dieu, et ceci donc fait sortir la personne de la religion. Comme a dit le grand savant, l'imam At-Tahawi, qui est né en 227 de l'Hégire, il a dit « وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرْ فَقَدْ كَفَرْ » qui signifie et celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes, est devenu mécréant. Donc il n'a pas d'excuse quiconque attribue à Dieu les attributs des créatures, ce qui n'est pas digne de lui. Allah dit dans le Coran, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. C'est-à-dire, n'attribuez pas à Dieu des semblables. Et pareil dans le hadith, on a vu comme le hadith Nuzul. Hadith Nuzul, ici, ça veut dire un ange descend. En fait, on a bien montré, indiqué que c'est un ange qui descend sous l'ordre de Dieu, au dernier tiers de la nuit, et qui répète, en transmettant de la part de Dieu, qui m'invoque, je l'exauce, qui me demande, je lui accorde, qui demande le pardon, je lui pardonne. Ça veut dire que c'est bien de se réveiller le dernier tiers de la nuit, comme par exemple une heure avant l'aube, et de faire des invocations, car on espère d'être exaucé. Donc c'est un ange qui descend sous l'ordre de Dieu. Donc les grands savants l'ont expliqué ainsi. Et c'est ce qui est conforme à la raison, car la raison est une preuve dans la religion, c'est un témoin de la religion. Et c'est ce qui est conforme donc au Coran et au Hadith, car Dieu rien n'est tel que lui. Ainsi, attribuer à Dieu le déplacement ou la localisation ou la quantité, c'est un blasphème, ça fait sortir la personne de la religion. C'est du shirk en fait. Attribuer à Dieu la ressemblance aux créatures. Dieu, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Donc là, on va citer un autre hadith que certains, malheureusement, expliquent mal. Donc, qui est... Entre autres, qu'on va citer, c'est hadith al-Jariya, le hadith de la femme esclave. Donc, le hadith qu'on a cité, hadith al-Nuzul, ça a été expliqué par l'imam al-Nawawi et d'autres... comme Ibn Hajar al-Asqalani. Donc l'imam al-Nawawi, il a fait le commentaire du recueil de hadith qui s'appelle Sahih Muslim. Et Ibn Hajar al-Asqalani, il a fait le commentaire du recueil de Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatouba lil ghuraba'. Ce qui signifie l'islam est apparu étranger. Il redeviendra étranger comme il a commencé. Alors, bonne nouvelle aux étrangers. Rapporté par Muslim et Al-Bayhaqi. On lui a demandé, qui seront les étrangers, ô messager de Allah? Il a dit, Alladhina yuslihuna min sunnati ma afsada an-nas. Ce qui signifie ceux qui corrigeront ce qui a été corrompu dans la voie sunnah que j'ai tracée. Or, la sunnah du prophète est la loi que le prophète a transmise, c'est-à-dire la croyance et les jugements de la loi révélée. Il y a dans ce hadith la bonne nouvelle pour celui qui s'attachera à notre époque où la corruption s'est répandue dans la communauté à la sunnah du prophète, c'est-à-dire à sa loi révélée. Donc ce hadith nous indique que l'islam, il a commencé étranger, c'est-à-dire quand le prophète il appelait au début à l'islam, les gens ils disaient ça c'est nouveau. Nous, ils disaient, nous on adore des statues, c'est nouveau, quelqu'un qui nous dit il faut adorer un Dieu unique. Donc ça c'est cité à plusieurs reprises dans le Coran. Ils ont dit ça c'est nouveau, on n'a jamais entendu. Nos parents ils adorent des statues. Après ils calomniaient le prophète, ils disaient tu dis n'importe quoi, tu es poète fou ou magicien, etc. Pourtant c'est la meilleure des créatures. Donc pareil, comme le prophète l'a expliqué, il aura une époque, et on est dans cette époque, les gens, ils disent ça c'est nouveau, parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est ancien, ils disent que ça c'est nouveau. Donc il faut apprendre ce qui est ancien pour pouvoir juger ce qui est nouveau. Or, beaucoup de gens, ils osent juger alors qu'ils n'ont pas appris. Ils disent, ah, on n'a jamais entendu ces choses-là, etc. Parce que c'est des gens ignorants. Alors que si on regarde les paroles des savants concernant cela, on trouve des centaines, des centaines, des centaines qui disent, qui indiquent que donc la croyance correcte, que Dieu rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui, et qu'on n'interprète pas le Coran n'importe comment, qu'il y a des ayats qui nécessitent une interprétation. Donc c'est ce qui est expliqué par ce hadith qu'on vient de voir, rapporté par Muslim al-Bayhaqi. Donc on va voir comment répondre à des gens qui assimilent Dieu à ses créatures. Des gens qui assimilent Dieu à ses créatures et des gens qui ne se prétendent pas musulmans et des gens qui se prétendent musulmans et ils ont la même croyance que ceux qui sont mécréants d'origine. Donc si un assimilationniste, ici c'est Mouchab en fait en arabe, qui assimile Allah à ses créatures, s'il prétend que le Coran et le Hadith indiquent que Allah est localisé dans la direction du haut, comment lui répondre? La réponse vient des textes eux-mêmes. Car ce groupe, le groupe des assimilationnistes, prétend que, ils disent, nous confirmons à Allah ce qu'il a confirmé pour lui-même, et nous nions à son sujet ce qu'il a nié pour lui-même. Ils veulent insinuer par leurs paroles, nous confirmons à Allah ce qu'il a confirmé pour lui-même, qu'il faudrait confirmer que Allah a une ressemblance avec les créatures. Ensuite, par leurs paroles, nous nions à son sujet ce qu'il a nié pour lui-même, ils insinuent qu'il faudrait nier qu'il est exempt de la localisation dans l'espace et les directions, et qu'il est exempt du fait d'être un corps, et de tous les attributs des corps tels que le mouvement, l'immobilité, le déplacement, le changement d'humeur, et de tous les attributs des corps. Donc, la croyance correcte, bien sûr, que Dieu n'est pas attribué de mouvement, ni d'immobilité, ni des attributs des corps. Or, ce genre-là, qui existait il y a un certain temps, et jusqu'à nos jours, qui s'appelle, de nos jours, ça s'appelle wahhabite, ou ils ont d'autres noms comme salafite ou autre chose. Ils attribuent à Dieu la ressemblance à la créature et ils citent les textes du Coran non explicites et les interprètent mal. Donc, bien sûr, celui qui attribue à Dieu la ressemblance aux créatures n'est pas musulman. Donc ainsi, le hadith, donc on va citer parmi ce qui est eux, ils interprètent mal. Donc il y a le hadith qui est appelé hadith al-Jariya. Donc hadith al-Jariya, il est cité dans Sahih Muslim, volume 3, et dans Sahih al-Bukhari, interprété par ces grands savants, la même chose. Ils disent ici quand il y avait une femme esclave, en fait, et que le prophète, donc selon des versions, lui a dit « Témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Allah ?» Et « Témoignes-tu que je suis le messager de Allah ?» Elle a dit « Oui. » Il a dit « Libère-la, elle est croyante. » Dans une autre version, il dit « Quel est ton Seigneur ?» Elle dit « C'est Dieu. Qui suis-je » Elle dit « Le messager de Dieu. » Donc, il y a une version rapportée par Muslim où il est cité que le prophète aurait dit le terme Aïna. Ici, les savants, comme les mêmes Nao, ils ont dit Aïna. Ici, c'est pas une interrogation sur l'endroit, mais sur sa croyance au sujet de Dieu. Est-ce qu'elle croit que Dieu est tout-puissant sur toute chose et que quand on fait le doigt, on lève les mains donc vers le ciel, c'est pas parce que Dieu habite le ciel, mais parce que c'est la direction des invocations, tout comme quand on fait la prière, on se dirige vers la Qibla, et ça ne veut pas dire que Dieu habite la Kaaba. Donc c'est ce qui explique Nawawi. Donc il voulait savoir par cela, est-ce qu'elle est ceux qui adorent les statues ou est-ce qu'elle adore Dieu qui n'a aucune ressemblance avec les créatures? Et cela ne veut pas dire où est Dieu, comme certains traduisent mot à mot. Et quand elle a employé Fissama, l'expression Fissama, cette expression veut dire que Dieu mérite plus de vénération que tout autre. C'est utilisé, donc c'est un sens figuré utilisé dans la langue arabe. Et elle ne veut pas dire qu'elle aurait cru que Dieu habite le ciel et que le prophète il a jugé croyante, non. Parce que le prophète, il nous a appris comment on juge quelqu'un croyant. Il a dit, Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, jusqu'à ce qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et que je suis le messager de Allah. C'est comme ça qu'on juge quelqu'un croyant quand il dit, donc, c'est les deux témoignages. Donc ainsi, comme on l'a dit dans la langue arabe, on dit Aïna Fulan, Aïna Antel, dans le sens quel degré a-t-il? Quelle est l'élévation de son mérite? D'autre part, lorsqu'on l'on dit Fissama, en langue arabe, cela peut signifier la supériorité du mérite. Et c'est de cette manière que les deux savants du hadith An-Nawawi Ar-Razi ont interprété le hadith. Ils ne l'ont pas pris selon le sens apparent comme l'ont fait les assimilationnistes qui assimilent Dieu à ses créatures. Donc s'ils font comme ces savants-là, ça sera une interprétation correcte. Mais si ils attribuent à Dieu la ressemblance aux créatures et la localisation, ils n'ont pas d'excuses. Donc ils n'ont pas d'excuses car attribuer à Dieu la localisation, c'est de la mécréance, même si la personne elle est ignorante, car la raison saine confirme catégoriquement que Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures, que Dieu, rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc, ainsi de même, la ayah, donc on va citer d'autres exemples, la ayah. أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. Donc l'expression man fi sama désigne les anges et que le mot man qui signifie dans la langue arabe aussi bien celui qui que ceux qui ne désigne pas Allah. Donc ici les savants ont dit man fi sama, c'est-à-dire les anges, car c'est Dieu qui Dieu ordonne aux anges de faire parvenir le châtiment aux gens, à certains peuples qui ont désobéi. Donc ça désigne les anges, car c'est Dieu qui a créé le ciel, Dieu existe avant le ciel, sans le ciel. Attribuer à Dieu la localisation et l'habitation du ciel, ça c'est la mécréance. Donc c'est la croyance des mécréants. Et donc celui qui suit cette croyance, il est mécréant même s'il se prétend musulman. Et le prophète nous a appris, il a dit, c'est-à-dire, ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous sont en enfer sauf une. Et ceux qui suivent l'enseignement du prophète. Donc le prophète nous a bien appris qu'il y aura des gens qui vont falsifier la religion et que eux se réclament de l'islam. Donc c'est un hadith très connu. Qui sont les gens qui sauvés? C'est ceux qui suivent ce que le prophète a enseigné conforme au hadith. Ils ne contredisent pas le Coran, ils ne donnent pas des interprétations qui contredisent d'autres ayats du Coran, car le Coran ne se contredit pas. Et de même, dans le hadith, le prophète il dit Irhamu man fil ardi, irhamukum man fil sama. Donc ce hadith-là, il est interprété par une autre version du hadith Irhamu ahl al ardi, irhamukum ahl al sama. C'est-à-dire, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, ceux qui sont dans les cieux seront alors miséricordieux avec vous. C'est-à-dire, les anges. Ahlu Sama, donc, ça vise pas Dieu, ça vise les anges, bien évidemment. Dans tous les cas, attribuer à Dieu la ressemblance aux créatures, même si quelqu'un il a mal compris une ayah, il n'a pas d'excuse. Mais ça, c'est des explications pour appuyer donc la croyance sunnite, la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et pour montrer donc le faux de ceux qui assimilent Dieu à ces créatures. De même, la ayah, Allah dit dans le Coran, فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. Le cousin du prophète, le prophète il a dit اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب, il a fait dua, invocation pour son cousin Ibn Abbas, que Dieu lui facilite l'apprentissage, la science, la sagesse et l'interprétation du livre. Il a interprété cette ayah, أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, il a dit, ça veut dire la qibla, agréée par Allah, pour celui qui prie sur une monture. C'est-à-dire, si tu pries sur une monture, comme avant ils voyageaient sur des montures, et tu veux faire des prières nafila, surrogatoires, pas les prières obligatoires. Pour les prières, cinq prières obligatoires, il faut absolument descendre et faire la prière normalement, debout. Mais pour une prière surrogatoire, il peut la faire sur la monture, il commence, donc la takbira, et où elle va, la monture, sa prière, elle est valable. Pour la prière surrogatoire, pas pour la prière obligatoire. Donc ce n'est pas valable, ce que font malheureusement certains, ils prient dans une voiture assis ou assis dans le train, c'est pas valable pour la prière obligatoire. Bon, pour la prière nafila, donc, et ça en plus pour la prière nafila sur une monture, comme un chameau ou, ou un cheval. Donc voilà l'explication du coup.
À l'autre arc. Et ce qu'on appelle arc, c'est un signe qui existait, qui avait été fait dans chacun des deux endroits, celui de Safa et celui de Al-Marwa, pour indiquer l'endroit auquel il faut absolument arriver pour que le sa'i soit valable. Et il a été détruit de nos jours, ça n'existe plus de nos jours, mais il y a été mis d'autres signes à sa place, à leur place. D'autres signes ont été mis à leur place.
والركن الخامس الحلق وهو استئصال الشعر بالموسى أو التقصير وهو أن يؤخذ منه ثلاث شعرات أو أكثر من غير استئصال ويدخل وقته بعد منتصف ليلة العيد.
Le cinquième pilier est le rasage du crâne, qui est le fait de raser complètement les cheveux avec ce qu'on appelle le moussa, avec le sort de rasoir, ou bien de diminuer, c'est-à-dire de couper les cheveux, et c'est de prendre au minimum 3 cheveux pour les couper, ou plus que 3 cheveux, sans raser, sans qu'il y ait le rasage. Et le temps qui permet de débuter ce pilier commence après la deuxième moitié de la nuit du Eid, c'est-à-dire la nuit qui précède le jour de la fête Al-Eid.
والركن السادس الترتيب في معظم الأركان فيجب تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف بعرفة.
Le sixième pilier est de faire cela dans l'ordre pour la majeure partie des piliers, pour la majorité des piliers. Il est donc un devoir de faire précéder l'intention d'entrer en rituel de pèlerinage à tous les autres piliers et de retarder le tawaf, les tours rituels autour de la Kaaba et le rasage du crâne ou la coupe des cheveux après le stationnement à Arafat.
وهي أي الأركان المذكورة إلا الوقوف بعرفة أركان للعمرة هي فيعلم من ذلك أن أركان العمرة هي خمسة وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب.
Donc ces piliers que l'on vient de citer, tous ces piliers, c'est-à-dire les piliers que l'on a cités à part le stationnement à Arafat, sont les mêmes piliers que pour la Umrah. Donc on sait à partir de là que les piliers de la Umrah sont au nombre de 5, qui sont l'intention d'entrer en rituel de Umrah, les tours rituels autour de la Kaaba, le trajet qui s'appelle le Sa'i entre Safa et Al-Marwa, la coupe ou le rasage complet des cheveux et l'ordre.
ولهذه الأركان فروض وشروط لا بد للحاج والمعتمر من مراعاتها حتى يكون عمله صحيحا يعني النية والإحرام والسعي كل ركن من الأركان له كيفية وشروط لا بد من أن يراعيها الحاج ليكون حجه صحيحا.
Et ces piliers comportent des obligations